Les adultes, notamment, ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs.
Cette maison d'édition a une devise. Du travail, c'est bien. Du travail sérieux, c'est mieux.
Nous nous occupons de créer des structures nouvelles. Nous laissons les écrivains en faire des chefs-d'œuvre ou des navets.
Si le gag n'apparaît qu'en fin d'exécution, alors là, c'est un vrai plaisir.
Par la bande, épisode 2, définition suite. Revenons à notre question. Qu'est-ce que la bande dessinée? Pour y répondre, la plupart s'appuient sur l'apparence visuelle de l'objet, à savoir un livre mêlant texte et dessin, mais parfois pas de texte du tout, suivant une succession de cases agencées pour former récit. Ainsi, la bande dessinée, c'est comme si tout était déjà dit dans son nom. Des bandes dans lesquelles viennent s'inscrire des dessins et qui, assemblés ou accumulés, créent un flux narratif. Si j'admets cette définition, je me trouve confronté à des cas qui vont la mettre à mal. Par exemple, Edward Gorey fait-il encore de la bande dessinée? Les ouvrages de Gorey sont des petits livres qui ne comportent ni cases ni bandes, mais un dessin par page, dans un cadre ou pas, avec le texte placé soit en dessous de l'image, soit sur la page d'à côté. De plus, si certains, par la succession des images, font bien des récits, comme l'invité douteux ou la visite mémorable, d'autres sont encore plus problématiques, puisque chaque image semble en rupture avec celle qui la précède ou la suit. Le grenier pentu, par exemple, ou le chien méfiant. Mais le lien est réalisé par le texte, plus exactement par une forme textuelle. De faux poèmes de 5 vers rimant en AABBA pour le grenier pentu, une courte phrase se terminant par un adverbe en « ment » dans sa traduction française, classé par alphabétique pour le chien méfiant, de « aveuglément » à « zutiquement ». L'ensemble des textes ne forme pas continuité et ne raconte rien de particulier. Mais il y a bien séquence. La forme textuelle qui se répète de page en page suffit à réaliser le lien. Et c'est celle-ci qui fait séquence, la réalise, tout en faisant rupture d'une page à l'autre. Autre livre qui pourrait poser problème, 40 Days dans le désert B de Moebius. Là, il s'agit d'une série de dessins sans texte, 70 en tout, à raison d'un dessin par feuillet, et dont l'ensemble, là non plus, ne raconte rien de particulier. Mais s'il n'y a pas à proprement parler de narration, il y a cependant bien séquence. Toute une gamme de géographies permet le passage d'une image à la suivante et de faire le lien. Écho, répétition, déplacement, déformation, etc. sont autant de procédés qui permettent à Moebius d'inscrire l'ensemble dans un flux séquentiel sans pour autant former récit. On y observera même des accélérations, des ralentissements, des pauses et voire même des ruptures. Donc, pour qu'il y ait bande dessinée, il n'est pas nécessaire qu'il y ait narration. Il suffit qu'il y ait séquence, c'est-à-dire un lien formel, textuel ou graphique, d'une image à la suivante. Pour faire séquence d'ailleurs, deux images suffisent, chacune d'elles altérant et modifiant la lecture de l'autre. Prises isolément, elles ont chacune un sens qui leur est propre, mais, mises en présence, chacun d'eux se trouve modifié, altéré, voire déplacé par l'autre. Un autre sens va se manifester, et s'il peut avoir un rapport avec ceux pris séparément, s'y superposer, s'y ajouter, s'y mêler, il peut aussi devenir tout autre chose, tout dépend de l'agencement. En toute rigueur, cependant, deux images, cela ne suffit pas à faire bande dessinée. Il y faut un temps plus long, mais elles en sont d'emblée l'amorce. Elles entrent déjà dans son mouvement. La question de l'agencement est cruciale quant à la formation ou à l'empêchement du sens. Dans la bande dessinée, plus qu'ailleurs, il est au cœur de son élaboration. Il n'est pas seulement ce qui permet d'articuler les images entre elles et de les distribuer, mais aussi ce qui en organise les éléments internes et définit le rapport texte-image. Toutes ces considérations ne répondent pas vraiment à la question. Elles tournent plutôt autour et la laissent comme de côté, mais ce n'est peut-être pas la bonne question. Nous savons par exemple que là où Sartre pose la question « qu'est-ce que la littérature ?», Blanchot lui demande « comment la littérature est-elle possible ?» De la question de l'essence de l'œuvre à celle de sa possibilité, le déplacement du questionnement éloigne l'œuvre d'une origine métaphysique, d'où elle viendrait tout entière. Parole première, qui en serait aussi la clôture, et l'ouvre au dehors. L'œuvre ne se pense pas seulement et totalement à partir d'elle-même, mais aussi, et surtout, à partir de ce qui lui est étranger. Cependant, Blanchot n'élude pas pour autant la question de l'essence. Simplement, il en renverse la perspective. Je cite « Il ne faut donc pas dire que tous les livres relèvent de la seule littérature, mais que chaque livre décide absolument d'elle. » Je laisserai donc ici la question « qu'est-ce que la bande dessinée ?» en suspens. Je chercherai bien plutôt à montrer quelles en sont les grandes catégories, leurs territoires respectifs et sur quelles frontières elles se déploient. Aussi, pour ma part, je dirais que la bande dessinée, comme pour le cinéma et la littérature, peut se scinder en trois grands ensembles. Premièrement, une bande dessinée grand public. Son registre est celui de l'explicite. Elle développe un type de récit à la compréhension immédiate, parfaitement et totalement lisible. Un flux narratif n'opposant aucune résistance à la lecture. Et fonctionne sur le principe de l'identification-projection. Les codes formels utilisés permettent en quelque sorte l'effacement de la forme. elle n'y est pas perçue en tant que telle, mais comme simple support de la narration. De fait, ce qui se lit, c'est le récit et non la forme qui le porte et le conditionne. La forme est rendue invisible au plein profit de l'intrigue. Ainsi, plus l'auteur maîtrise les techniques de la disparition du code, plus la forme se donne pour évidente au lecteur et plus celui-ci peut s'identifier au récit et en jouir. Deuxièmement, une bande dessinée d'auteur. Au souci de dire quelque chose, se superpose un travail de la forme. Il s'agit de les articuler de façon à donner à cette dernière une certaine visibilité, mais sans aller jusqu'à occulter le récit. Faire émerger quelque chose de la forme met le récit en questionnement. Le lecteur, mis en présence de celle-ci, est amené à la comprendre comme ce qui autorise ou empêche le sens. Le récit ne se perçoit plus comme un absolu, mais comme relatif à ce qui en autorise le développement. La bande dessinée d'auteur engage le lecteur dans le processus même de la formation du sens. Il n'est plus donné comme évident, plein et entier, un flux continu ne rencontrant aucune résistance, mais comme troué, traversé de vide, comme inachevé et inquiet. Troisièmement, une bande dessinée expérimentale. Sa préoccupation première est celle de la forme, c'est là son lieu. Pour autant, elle n'en implique pas moins des problèmes de fond. Ce qui se met en question par la forme, c'est le sens lui-même. La bande dessinée expérimentale interroge la genèse même du sens, sa possibilité. Elle pense la forme comme ce qui fonde le rapport du sujet au sens, comme ce qui articule le message à sa réception. La bande dessinée expérimentale, comme travail formel, est un réel travail de fond. Pour l'épisode 3, nous nous poserons la question de l'origine de la bande dessinée.
Les adultes, notamment, ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs.
Cette maison d'édition a une devise. Du travail, c'est bien. Du travail sérieux, c'est mieux.
Nous nous occupons de créer des structures nouvelles. Nous laissons les écrivains en faire des chefs-d'œuvre ou des navets.
Si le gag n'apparaît qu'en fin d'exécution, alors là, c'est un vrai plaisir.